C'est bon.
Bon, il faut une bonne gestion. Alors, on rentre les liens pour ce soir et je verrai avec Guillaume Tabar. Je crois que c'est ça. Sinon,
moi, j'ai rempli la dernière
fois. Tu l'as fait la dernière fois.
D'accord.
Mais d'accord. Sans dire que c'était que je venais à ce cours.
Pardon, vous avez.
J'ai rempli, mais je n'avais pas dit que je venais.
Ah oui, c'est ça. Cours. D'accord. Bon. Voilà. Bah, écoutez, nous commençons et puis. Voilà, advienne que pourra. Voilà. Alors, ce soir, ça va être. Pauvres amis, vous venez, vous dites, nous allons découvrir le livre de la Genèse. Mais comme chaque année, je commence toujours par une introduction plus théorique, donc un peu plus austère. Voilà. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ensuite, quand nous aurons fait cette partie théorique, eh bien, vous. Nous attaquerons la lecture même du livre de la Genèse. Donc je vous annonce dès maintenant, vous l'avez sur votre plan, que nous lirons le chapitre 1. Hein. Vous avez le plan, le premier récit de la création, ensuite le deuxième récit de la création, et nous resterons un deuxième cours sur le chapitre 2 pour nous concentrer sur la question de la création de l'homme et de la femme. C'est un sujet absolument énorme, d'une actualité énorme, voilà. Et je pense qu'il y a une personne qui n'est peut-être pas ici tout à fait directement, mais qui peut se féliciter de m'avoir encouragé à faire ce choix-là. Voilà. Et puis ensuite, nous continuerons avec la désobéissance d'Adam. Vous avez remarqué que je n'ai pas mis la chute. Et donc, le jour viendra où je vous expliquerai pourquoi je n'ai pas mis le récit de la chute. C'est plutôt la désobéissance d'Adam et Ève. Ensuite, bien sûr, l'épisode de Caïn et Abel, qui fait suite à ce chapitre 3. Le déluge, qui couvre plusieurs chapitres, mais qui forme véritablement une unité. Et la tour de Babel et la dispersion de l'humanité, qui nous mettra au seuil de l'histoire d'Abraham. Voilà, donc ce sont c'est un programme qui est stimulant et je compte sur votre bienveillance, votre indulgence, puisque la matière est importante. Et voilà, l'essentiel en réalité, hein, tout ça c'est en préalable avant de commencer notre cours lui-même, l'essentiel, ça je le redis, mais avec beaucoup de sérieux, c'est de lire le texte. Hein, le travail principal que nous faisons quand nous étudions la Bible, c'est un travail d'apprentissage de lecture. Hein, souvent, on voudrait beaucoup de belles choses, on voudrait des belles paroles, on voudrait apprendre des choses, mais ça ne sert à rien s'il n'y a pas la lecture attentive et très simple de la parole. Ouvrir la Bible, lire le texte tel qu'il est, c'est la porte d'entrée pour ensuite aller dans davantage de connaissances et dans le sens spirituel. Je reviendrai dessus à la fin. Voilà, alors nous commençons notre matière. Vous connaissez ce passage que nous avons eu à la messe il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine de jours, une discussion entre Jésus et les pharisiens au sujet de la loi de Moïse, à propos de la loi sur l'adultère, le divorce. Jésus argumente en citant le livre de la Genèse et il a cette formule qui est extrêmement importante. Il dit « Au commencement, il n'en était pas ainsi ». Les pharisiens interrogent Jésus en lui disant « Est-ce qu'il est permis ? Est-ce qu'il est défendu ? Est-ce qu'il est autorisé de divorcer ou pas ?» Et Jésus, qui connaît bien la loi, qui connaît bien les dispositions de la loi, dit « Tout ça, je ne le nie pas, mais au commencement, en amont de la loi, il y avait autre chose. Hein, que vous ne connaissez pas parce que vous êtes pécheurs, nous sommes, voilà, notre humanité est pécheresse, et en raison du péché des hommes, Dieu a donné une loi. Mais l'intention de Dieu, le projet de Dieu, Dieu a un dessein, il a un projet. Et ce projet, il faut arriver à le penser indépendamment de la loi de Moïse. Voilà. Et donc, Jésus nous permet de redécouvrir ce au commencement. Alors ce au commencement, ce commencement avant le péché, c'est bien ce dont nous parle le livre de la Genèse, mais évidemment écrit par des hommes qui étaient pécheurs, et donc avec les fragilités, les limites du langage humain. Malgré tout, nous prenons le texte de la Genèse au sérieux et nous essayons de le lire, mais évidemment en ayant bien conscience que notre horizon, c'est le Christ qui en ouvrira le sens plénier. Alors pour ce soir, je vous propose deux temps. Tout d'abord, une présentation d'ensemble du texte de Genèse 1 à 11. Pourquoi 1 à 11 et pas 1 à 24 ou à 35, voilà, les 11 premiers chapitres. Ensuite, je m'arrêterai beaucoup plus longuement sur la question du rapport entre histoire et récit. Voilà, le texte et l'histoire qu'il raconte. Tout d'abord, présentation d'ensemble du texte de Genèse 1 à 11. Voilà, le contenu en lui-même, eh bien le texte dans lequel nous allons entrer, hein, d'abord le livre de la Genèse, qui est le premier livre du Pentateuque, hein, vous connaissez le terme de Pentateuque, Pentateukos, hein, en grec, les cinq rouleaux, les cinq livres, voilà, hein, les livres qui constituent le Pentateuque, qui sont le noyau de la loi de Moïse, hein, ce qu'on appelle la loi, qui est entre parenthèses, pour un juif, hein, qui parle en hébreu, la loi, ce n'est pas un code législatif de règles à suivre, la loi, c'est l'enseignement, la Torah, ça veut dire enseignement. Hein, les juifs disent qu'il y a eu deux grands drames dans l'histoire du monde, hein, les deux plus grands drames dans l'histoire du monde, c'était d'abord le péché d'Adam, et ça a été le jour où les Grecs ont traduit Torah par nomos, c'est-à-dire par loi. Voilà. La loi, ça fausse notre rapport avec les textes du Pentateuque. La loi pour un juif, la Torah de Moïse, c'est d'abord l'enseignement, c'est la parole de Dieu qui évidemment est normative, mais qui est beaucoup plus riche. Voilà, c'est une parenthèse, mais c'est intéressant pour situer le texte de la Genèse qui fait partie de la loi alors même qu'il n'y a pas de prescription de loi à l'intérieur. Voilà. Il faut avoir cette compréhension large et profonde de la loi que nous donne la tradition juive. Voilà, le premier livre du Pentateuque, le premier livre de la loi de Moïse, cela veut dire aussi le premier livre de toute la Bible. Ça veut dire que nous lisons le livre de la Genèse comme une introduction, nous retrouverons tous les thèmes tout au long de la Bible. Le titre du livre, c'est celui que donne la Septante, hein, voici le livre de la Genèse, de la descendance d'Adam, hein, chapitre 5, verset 1, hein, Genesis, hein, la Genèse. Vous savez que la Septante, c'est la traduction en grec. Hein, ça, je pense que vous connaissiez la traduction en grec. Pourquoi Septante ? Parce qu'il y a 70 rabbins qui se sont mis au travail pour traduire la Bible de l'hébreu au grec, hein, à Alexandrie, voilà, et pendant 70 jours. Et quand ils sont sortis de leur petite cahute pour traduire chacun dans leur coin, ils ont comparé leurs traductions et les 70 traductions étaient semblables. Voilà, c'est un peu la légende, voilà, la légende du pseudo-Aristée. Et donc, on a gardé le terme de Septante, hein, les 70 traducteurs. Voilà, donc la Bible grecque. Le titre en hébreu, hein, le titre en hébreu, c'est Bereshit. Bereshit. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont fait de l'hébreu, déjà ? Pas encore. Bon, l'année prochaine, on fait de l'hébreu. Voilà, puis l'année suivante, on fait la suite de la Genèse. Oh, ce serait formidable. Je peux vous assurer que c'est un vrai bonheur. Les gens disent, mais c'est sûrement très... Pardon ? Ah ben écoutez, d'ici là, on fera le grec, on fera le latin. Voilà. Hein, c'est un très beau programme, c'est très stimulant. Je pense qu'on a beaucoup de choses à vivre ensemble. L'hébreu, c'est. Les gens disent, mais c'est très très compliqué. Alors c'est vrai que c'est très compliqué si on veut vraiment aller jusqu'au bout, mais c'est très accessible aussi. Voilà. Bereshit, ça veut dire dans un commencement. C'est le verset 1 du chapitre 1 de la Genèse. Hein, c'est la tradition juive, l'habitude juive de donner pour titre aux différents livres de la Bible le premier mot, hein, Bereshit, dans un commencement. Et c'est, on va pareil pour les cinq autres livres du Pentateuque. Le contenu même du livre de la Genèse, eh bien, c'est précisément l'histoire des commencements. Hein, l'histoire des commencements. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bien sûr, le récit de la création. Commencement d'histoire de l'univers, commencement de l'histoire humaine, puisqu'on voit apparaître également Adam et Ève avec les débuts un peu incertains du premier couple et de leur descendance, Caïn et Abel et les autres, mais aussi commencement de l'histoire d'Israël, hein, qui fait l'objet de la deuxième partie du livre de la Genèse que nous verrons plus tard. Le récit des origines, chapitre 1 à 11, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va jusqu'à la tour de Babel et à la dispersion de l'humanité. Et puis, la deuxième partie qui est beaucoup plus importante, l'histoire des patriarches, les pères, comme on dit. Les pères, évidemment, les pères de qui ? Les pères d'Israël. Mais on verra que ce n'est pas simplement Israël. À travers Abraham, c'est toute l'humanité. Des parties qui sont bien sûr inégales en taille, mais qui se distinguent assez nettement par leur objet. La coupure est assez bien marquée. Et ça, je vais m'arrêter dessus quelques instants, parce que c'est important de comprendre la dynamique même du livre de la Genèse. C'est vrai que quand on prend la Bible, la révélation biblique dans son ensemble, la Bible, c'est essentiellement l'histoire d'un peuple, c'est l'histoire d'Israël. Vous m'entendrez le dire, vous m'entendrez le redire, on ne peut pas comprendre la Bible si on la dissocie du peuple d'Israël. Vous allez dire, voilà encore une vieille lubie, ça fait 2 ans qu'on n'avait pas eu le père des premiers, il revient avec son philosémitisme et ses histoires des juifs. Eh bien, ce n'est pas uniquement une question de lubie, c'est une question de théologie. On s'est habitué comme chrétien à dire, mais finalement, avec le Nouveau Testament, on n'a plus besoin du lien avec Israël, c'est l'Ancien Testament, c'est passé, c'était les prophéties, maintenant c'est le christianisme. Alors ça, c'est une vision qu'on appelle le martionnisme et qui n'est pas du tout la vision chrétienne. Encore aujourd'hui, nous croyons qu'il y a un lien qui a été voulu par Dieu entre le peuple choisi par Dieu, le peuple d'Israël, et la révélation. Aujourd'hui, je vous assure que les contacts que nous avons avec le peuple juif pour essayer de comprendre les Écritures sont extrêmement fructueux. Et Jésus lui-même était juif, il lisait les Écritures avec toute la sève d'Israël qu'il avait dans son âme, dans son cœur. Voilà. Donc la Bible, c'est d'abord l'histoire d'un peuple, l'histoire d'Israël. Voilà, l'Église va être un peu comme la branche sur le tronc, comme dira saint Paul, va se greffer, va se rattacher à cette histoire. Évidemment, le peuple d'Israël et l'Église. Mais c'est l'histoire d'un peuple. On ne peut pas faire de la Bible une lecture indépendante de l'histoire du peuple. Ça, c'est fondamental. Donc la Genèse est orientée vers l'arrivée d'Israël. Il y a comme une attente dans les 11 premiers chapitres de l'arrivée du peuple d'Israël. Cependant, comme nous sommes dans le temps de l'introduction, et ça c'est très très important, la Bible s'ouvre d'abord sur un regard étendu sur le monde, un regard universel. Ça c'est très important de le comprendre. La révélation biblique, même si elle est liée à l'histoire d'Israël, elle a une prétention universelle, un regard étendu sur le monde. Le ciel et la terre, Dieu créa le ciel et la terre. Il est question de tous les êtres vivants. Le déluge qui va couvrir toute la terre. Voilà. Regard étendu sur le monde, regard étendu aussi sur toute l'humanité. Quand il est question de l'homme, Dieu qui crée l'homme, homme et femme, il s'agit de toute l'humanité, pas uniquement d'Adam et Ève. Et de façon plus historique, on va dire, il est question du peuplement de toute la terre. Donc on a vraiment l'introduction de la Bible, avant d'entrer dans l'histoire d'Israël, c'est une vision qui est universelle. Donc ça fait partie du contenu même de la Bible, de vouloir dire quelque chose qui concerne toute l'humanité, qui concerne tous les hommes. Le livre de la Genèse, c'est un livre qui concerne toute l'humanité. Voilà. Cela veut dire que l'histoire même d'Israël aura une portée universelle. Voilà. Alors, c'est intéressant de voir dans la structure de la Bible une dimension vraiment universelle qu'on a au début dans les 11 premiers chapitres et que vous retrouverez à la fin dans le livre de l'Apocalypse. Tout à l'heure, on parlait de l'Apocalypse. Ben, on y arrive dès ce soir à l'Apocalypse. Vous voyez, je suis rapide. Paf, direct, au but. Voilà, sans passer par les cases intermédiaires. L'Apocalypse aussi, on va voir de nouveau tous les peuples de la Terre. On va voir même le ciel, la Terre, les étoiles qui vont être convoquées comme au jour de la création. On appelle ça... Est-ce qu'il y en a qui savent comment on appelle ça? Quand on a des éléments littéraires au début d'un récit et à la fin d'un récit qui se répondent. Ça porte un nom technique. Oui. Au début d'un récit, vous avez un mot que vous retrouvez à la fin. On appelle ça une... Ah, là, on sent, ceux qui sont venus jusqu'à il y a 2 ans, ça, j'en ai souvent parlé. Une inclusion. Voilà, une inclusion. Alors, en général, une inclusion, on en parle à propos d'un texte, hein, d'une unité littéraire. Mais on peut étendre le terme, on peut étendre le terme à l'ensemble de la Bible, qui finalement est comme un grand récit, hein, avec cette inclusion, hein, ce regard majestueux sur le ciel que le Seigneur déploie et qu'on retrouvera dans le livre de l'Apocalypse. Maintenant, si on regarde les choses plus précisément, c'est intéressant de voir qu'il y a comme une sorte de mouvement à la fois de rétrécissement ou de focalisation sur Abraham. On part de l'universel avec la création du ciel et de la terre, et petit à petit, progressivement, on va arriver au seuil de l'histoire d'Abraham en resserrant le faisceau sur l'histoire d'une famille, hein, les descendants de Sem, les fils de Noé, et puis finalement Abraham. Hein. On a l'impression que le livre de la Genèse, qui nous met en présence des étoiles, du ciel, de la terre, va se concentrer sur l'humanité qui va naître d'Adam, et progressivement, avec le déluge, évidemment, qui va faire un peu le ménage, si on peut dire, et finalement, il y a Sem, Cham et Japhet, on va s'en tenir à Sem, et parmi les descendants de Sem, on va se concentrer sur une famille, et on aboutit à Abraham. Vous savez, comme un effet d'entonnoir pour arriver à Abraham. Donc progressivement, la caméra ou je sais pas quoi du livre de la Genèse nous dit notre regard va se porter sur un clan. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne va pas donner un message de manière complètement déconnectée de la réalité, de manière universaliste. Il va passer par une histoire singulière. Dieu vise bien l'humanité, mais il passe par une histoire singulière. Et de fait, une fois qu'on arrive à Abraham, il y aura de nouveau un élargissement progressif aux dimensions du monde. Vous vous souvenez bien de ce passage. Par Abraham seront bénies toutes les familles de la terre. Voilà. Et toute l'histoire d'Israël, ce n'est rien d'autre que la communication, la transmission de la bénédiction à Abraham. C'est très beau de se dire que la Bible, c'est l'histoire d'une bénédiction, une bénédiction originelle que Dieu veut transmettre à l'humanité. Seulement, il ne va pas donner cette bénédiction à l'humanité de manière, j'allais dire, universaliste, on dirait en des termes aujourd'hui, mais en passant par l'histoire singulière d'un peuple qu'il a appelé à partir de l'appel d'Abraham. Voilà, ça nous met au seuil de la question de l'appel d'Israël. Dieu en choisit quelques-uns pour atteindre la totalité. L'amour de Dieu, qui est universel, passe par des personnes concrètes, passe par Abraham, et à partir de là, les descendants d'Abraham, le peuple d'Israël, et finalement l'Église, et finalement toute l'humanité. Voyez, hein, rétrécissement sur Abraham, on arrive au seuil du chapitre 12, et à partir d'Abraham, ça s'élargira progressivement, pour atteindre de nouveau l'humanité. Et on comprend comment, avec la Pentecôte, avec le Nouveau Testament, hein, ben, d'Israël, du peuple d'Israël au peuple qu'il y a dans l'alentour, ben, ça va être l'Église qui va recevoir l'Esprit Saint et qui va être envoyée dans le monde. Et là, la Vierge Marie avait bien compris, quand elle a appris que l'enfant Jésus viendrait pour accomplir les promesses, elle a dit c'était la promesse que Dieu avait faite à nos pères, et particulièrement à Abraham, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Vous voyez ? On est déjà, comme chrétiens, on a cette lecture qui nous projette vers la réalisation du projet de Dieu. Mais avant de nous plonger dans des histoires qui sont des petites histoires très locales, eh bien, nous comprenons cette largeur de vue que le livre de la Genèse nous donne. Vous savez, on voit ça souvent dans les films ou des présentations, le cinéma. On voit la planète Terre et puis la caméra qui s'approche et puis la caméra s'approche de plus en plus pour voir un pays, puis on arrive dans un petit village. Hein, ça, c'est un procédé cinématographique. C'est un peu ce que fait le livre de la Genèse. Et c'est très important théologiquement. Je suis un peu plus long dessus que ce que j'avais prévu, mais je dis ça, ça va avoir des conséquences énormes par rapport à l'histoire du salut, l'histoire de la rédemption, par rapport à l'histoire de l'Église. Hein. Beaucoup de personnes vont nous dire aujourd'hui, mais il y a un message universel dans la Bible, donc on n'a pas besoin de passer par les chrétiens ou de passer par les juifs. Hein. Alors ça, cette manière de voir les choses, pour faire un peu court, c'est les Lumières au XVIIIe siècle, hein, des grands principes. Voilà, la fraternité, la lumière, la vérité. Alors, c'est très bien, c'est issu de la Bible. Mais on oublie juste que Dieu est passé par un peuple et ce peuple, il va aboutir à Jésus-Christ. Et le salut nous est donné comme une grâce, non pas comme un principe atemporel, abstrait, universaliste, mais à travers l'histoire concrète d'un peuple, le peuple d'Israël, à travers l'histoire concrète de quelqu'un qui est Jésus-Christ, à travers la réalité concrète de l'Église qui est porteur de cette espérance qui nous a été transmise par Israël. Vous voyez ? L'incarnation, ce n'est pas uniquement la chair du Christ, c'est aussi la réalité d'Israël et la réalité de l'Église. Sans ça, on est dans l'idéalisme. Ça a donné l'idéalisme, l'idéalisme des Lumières, avec des grands principes et des gens qui disent on n'a pas besoin de l'Église, on n'a pas besoin du Christ, finalement. Ah oui, mais c'est l'humanité, on a une approche abstraite de la révélation. Eh bien non. La révélation, c'est quelque chose qui va passer, j'allais dire, par la chair d'Adam, d'Ève, de leurs enfants, d'Abraham. Voilà, l'Esprit Saint passe par la chair de son peuple Israël, par Jésus-Christ, évidemment, qui est rempli de l'Esprit Saint. Voilà. Alors, la composition, là, je vais être beaucoup plus rapide. Hein. Les 11 premiers chapitres de la Genèse constituent une unité bien distincte. On ne va pas prendre ce soir le temps de l'établir de façon très particulière. Hein. Il est inutile, cependant, de chercher une structure littéraire très, très rigoureuse à l'intérieur du livre de la Genèse. Hein, il y a des exégètes qui vont s'amuser à trouver partout des plans concentriques ou des chiasmes. Dans le livre de la Genèse, je ne crois vraiment pas que ça s'impose. Hein. L'ensemble a été composé à partir de récits, hein, ou plus précisément de sagas, ce qu'on appelle des sagas. Hein, alors c'est un terme de la littérature scandinave. Hein, c'est pas parce que c'est à cause des origines normandes de celui qui vous parle, c'est les Vikings, des sagas. Hein, c'est pas à cause de ça. J'ai casé la Normandie, je suis content. c'est pas à cause de ça. Saga, c'est un terme qui a été repris par des exégètes allemands au XIXe siècle, hein, pour le récit d'une famille, le récit d'une histoire très particulière, mais qui a une portée qui va bien au-delà, hein, du cas particulier. Une saga, c'est une histoire qui va avoir une portée universelle, si on peut dire. Mais c'est l'histoire concrète, voilà, d'une famille, d'un clan, d'un lieu précis. On parle de saga, la saga d'Abraham, par exemple, la saga de Jacob. Voilà. Alors, l'ensemble des 11 premiers chapitres de la Genèse, ce sont des récits, ce sont des sagas qui ont été mises ensemble. Et dans une composition qui, si elle ne répond pas à nos critères modernes, dans littérature, ont quand même une... C'est une construction qui est très solide, un enchaînement, hein, qui suit une logique tout à fait précise. On voit que finalement, il n'y a rien d'aléatoire. Voilà. Je vous ai mis l'enchaînement des différents chapitres. Hein. Alors, c'est un plan qui n'est pas contraignant. C'est simplement un plan qui donne l'enchaînement du récit. Hein. Je suis l'ordre narratif. J'aurais pu suivre un autre ordre, qui est celui de l'histoire de la composition. Je vais m'en expliquer tout de suite, hein, en mettant d'un côté les textes écrits par tel auteur, les textes écrits par tel autre. Hein. Là, je suis l'ordre narratif qui me semble le plus important, hein, puisque, encore une fois, il s'agit de lire un texte, et pas uniquement de faire de la recherche archéologique. Voilà. Nous abordons la partie un peu plus lourde, hein, de l'histoire et le récit. Ça va, tout le monde suit. J'entends pas encore trop de ronflements, donc vous êtes toujours patient et bravo. Alors voilà, la question que je lui dis, c'est de lire le livre. Comment lire le livre ? Quand on lit l'Ancien Testament, et peut-être plus particulièrement encore, on le vérifie davantage à propos du Pentateuque, les 5 livres de la loi de Moïse, il convient de prendre en compte, d'une part, l'histoire de la composition, et d'autre part, son état, l'état final du texte. L'histoire de la composition, c'est le texte a été écrit sur une période assez longue. Plusieurs textes écrits sur une histoire assez longue. Alors, on appelle ça la lecture diachronique. Voilà, ben les premiers, on peut dire, les textes les plus anciens. Il y a peut-être des formules, comme la formule de Nombre chapitre 6, hein, je parle du Pentateuque, hein, la bénédiction à Aaronide, on peut dire, elle remonte à avant David, hein, très 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 ancienne. Et puis il y a des textes dans le Pentateuque qui sont très très récents, hein, qui datent du 5e, 4e siècle, hein, qui a eu donc 6 siècles plus tard. Donc le texte a une histoire, et cette histoire est éclairante. Elle explique pourquoi il y a quelquefois deux récits qui se ressemblent mais qui ne sont pas tout à fait pareils. Des répétitions. Voilà. Et l'état final, donc, c'est le texte tel que nous l'avons aujourd'hui. Et on prend en compte ces deux aspects. Alors, voilà, je vais d'abord dire quelques mots sur ce qu'on appelle la lecture diachronique et ensuite la lecture synchronique. La lecture diachronique. Quand on lit le livre de la Genèse, on voit qu'il y a un certain nombre de répétitions. Il y a des incohérences. Il y a des différences de vocabulaire. Et des choses qui ne sont pas toujours cohérentes. Par exemple, vous pouvez lire le livre de l'histoire dans le livre de l'Exode, hein, l'histoire de la traversée de la mer. Il y a un moment où vous avez l'impression que ça y est, la mer reflue sur les Égyptiens. Et puis après, c'est comme si elle était toujours à sa place et elle va de nouveau arriver sur les Égyptiens. Alors quand on regarde de près, on se rend compte qu'il y a comme deux récits l'un au-dessus de l'autre, qui ont été combinés de manière plus ou moins précise. Pareil dans l'histoire du déluge, hein, il y a un moment, le Seigneur dit, tu vas prendre deux paires de chaque animal, voilà, et puis à un autre moment, il n'est pas question de deux paires de chaque animal, mais on va dire de tous les animaux, un mâle, une femelle. Voilà. On se dit, mais c'est quoi? En plus, c'est sept paires d'un côté, puis de l'autre côté, c'est de tous les animaux. Alors, c'est quoi entre les deux? Alors, on se dit, mais celui qui a composé le texte, il a repris des éléments qui viennent peut-être de provenances différentes, il les a cousus ensemble, mais sans forcément harmoniser. Alors, on s'est posé beaucoup de questions, c'était au XVIIIe siècle. On se rendait compte, par exemple, qu'il y a des moments, Dieu, on lui donnait le nom de... Il y avait. Alors, voilà, exactement. Alors, il est d'usage de ne pas dire ce nom-là, parce que c'est ce qu'on appelle le tétragramme, le nom que les Juifs donnent, que l'Hébreu donne, hein, qui a été hellénisé. Voilà, mais de fait, les quatre lettres, on appelle ça tétragramme, quatre lettres, hein, qu'on a en effet translittéré en disant Yahvé, voilà. Et d'autres textes où Dieu a quel nom ?
Elohim.
Elohim, bravo. Alors, on s'est dit, tiens, c'est bizarre. Puis on voit que les textes où il y a Yahvé et les textes où il y a Elohim, on arrive à les distinguer. Alors, on s'est mis à étudier en disant, mais ces textes ont-ils une histoire distincte ? Toutes ces réflexions ont été reprises par un exégète allemand qui s'appelle Julius Wellhausen, vous avez les dates, qui développe la théorie suivante. Le Pentateuque combine quatre sources qui étaient initialement indépendantes les unes des autres, issues de milieux différents. Une source qu'on appelle yaviste, une autre éloïste, une autre deutéronomiste et une autre sacerdotale. Tout d'abord, la source yaviste ou le document yaviste, évidemment, emploie le nom de Yahvé pour Dieu, que je vous ai mis dans la forme telle qu'on devrait la mettre habituellement, YHWH, puisqu'en hébreu c'est un nom imprononçable. Vous savez que le nom de Dieu, il n'y a que le grand prêtre qui prononçait une fois dans l'année à Yom Kippour en entrant dans le temple après avoir jeûné pendant une semaine, s'être purifié. Donc si à chaque fois que vous dites le nom de Yahvé, vous faites la même chose que lui, bon courage. Voilà, donc tellement on a le sens de la grandeur de Dieu. Voilà. Et probablement ces textes yavistes, où on a employé ce nom-là, ont été composés à la cour de David et Salomon. Alors là, je vous dis la théorie de Wellhausen. Hein, c'est pas c'est comme ça que les choses sont présentées. Voilà, avec une certaine manière de présenter le Seigneur, proche de son peuple, plein de miséricorde, etc. Voilà, plutôt dans le royaume de Juda, au sud. Est-ce qu'il y a des... Ah ben c'est très bien. Voilà. Alors, la manière de présenter le yaviste, on fait J en allemand, Yahvé, avec le J. Ça, c'est dans le sud. Là, vous avez... Tac. Est-ce que vous reconnaissez ?
Oui.
Oui. Bravo. Ah, bravo. Le quand même me plaît. Le quand même me plaît. Évidemment, on est là-bas. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le royaume de Juda, ici. Et c'est là qu'il y a probablement le J, d'ailleurs, comme Juda. Voilà. L'éloïste, dans l'échelle du temps, là, vous êtes autour de l'an 1000. Voilà, 900. Voilà, royaume de David, Salomon, etc. Un petit peu après, hein, quand il y a eu la séparation entre le nord et le sud, hein, après la chute de Samarie, Samarie, ça se trouve ici, voilà, les gens du nord vont arriver avec des traditions qui viennent de chez eux, qui sont des traditions éloïstes. Eux, comme éloïstes, vous retrouvez le nom de Elohim. Voilà. Elohim, c'est davantage un dieu qui va marquer sa volonté, les lois que l'on doit suivre, un certain sens de la grandeur de Dieu, hein, avec toutes sortes de traditions, hein, qui vont tourner autour de la figure de Jacob. Voilà. En 722, il y a la chute de la ville de Samarie, et J et E, les deux, vont se fondre. Voilà, parce que les gens du Nord arrivent à Jérusalem, donc ça c'est eux comme Éloïs, ils arrivent, et ben, ils vont dire, voilà nos traditions, et Jérusalem, voilà nos traditions. Donc les traditions commencent à se rencontrer. Vous voyez, des sagas, des récits, qui viennent de deux régions différentes, mais qui vont être fusionnés ensemble. Voilà. À ce moment-là, Jérusalem, on se dit, ben, il serait peut-être temps de se convertir, donc c'est l'époque du prophète Jérémie, on va avoir... des prophètes, on va avoir toute une littérature qui va se tourner beaucoup autour de la question de la conversion du cœur, de l'obéissance à la loi. Il s'agit d'obéir à la loi. On a les textes de loi qui viennent des deux traditions. Maintenant, il faut les mettre en pratique. Voilà. C'est ce qu'on appelle cette question de l'obéissance à la loi. Hein, c'est la réforme de Josias à la fin du 7e siècle. C'est ce qu'on appelle la tradition deutéronomiste, hein, la rédaction du Deutéronome, hein, qui tourne autour du 6e siècle, fin 7e, 6e siècle. Là, on est autour de l'an... la prise de Jérusalem, c'est quand? Qu'est-ce qui se souvient de la prise de Jérusalem? 580, vous êtes bon, dis donc, attendez, mais... 87, bravo, 587, voilà, 587, là, c'est la chute de Jérusalem, donc c'est le départ en exil, tac, on part en exil à Babylone, voilà, et c'est déjà un peu à Jérusalem et puis à Babylone qu'on va voir le deutéronomiste, le D, voilà, c'est la lettre D, voilà. Vous suivez?
Oui.
Yaviste, oui. Éloïste, les deux se mettent ensemble, ça va donner la loi, le noyau de la loi, et tout ça va être repris par un courant prophétique qui dit bah, cette loi, il faut la mettre en pratique, et c'est le courant deutéronomiste, qui va donner par exemple tous les livres historiques. Hein, les livres historiques sont plutôt de style deutéronomiste. Au retour d'exil, c'est quand le retour d'exil?
Oui.
Vous savez tout. Je m'assieds, je ne peux plus. Puis la fête. Bravo. 539, voilà, 538, on retourne à Jérusalem. Il n'y a plus de roi, donc c'est le retour, hein, en passant par le nord. Et toujours à Jérusalem, là c'est 539, c'est le retour d'exil. Et c'est P comme Priest, en allemand. Priest, prêtre, sacerdotal, le document sacerdotal. Vous voyez, hein, ce sont les prêtres, il n'y a plus droit à Jérusalem, ce sont les prêtres qui vont s'occuper de la vie du peuple, hein, le document sacerdotal. Hein. Alors le document sacerdotal, il y a deux choses à savoir sur le document sacerdotal, c'est que d'abord ça va être des textes écrits dans un certain style, hein, qui parlent de... qui met en avant à la fois le caractère universel de la promesse faite par Dieu, le culte rendu au Dieu saint, toutes les lois autour de la sainteté, les lois qui concernent, voilà, dans le livre du Lévitique, hein, les règles à suivre et à ne pas suivre, hein, les prêtres, tous pareils, hein, dire qu'il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, hein, c'était déjà comme ça à l'époque, alors surtout en Allemagne, à cette époque, avec une idéologie où on disait, voilà, c'était la loi qui devenait très, très rigoureuse et très rigide, hein, on a beaucoup insisté dessus, hein, voilà, puis le sens, la grandeur de Dieu, le culte rendu au Dieu saint, voilà, c'est la première chose que fait l'auteur sacerdotal. Puis la deuxième chose qu'il fait, c'est de fusionner tous ces textes en un grand ensemble, hein, qui nous donne la loi de Moïse. Donc le sacerdotal, en fait, eh bien, on peut dire que, voilà, il y a eu le dé qui est venu en disant, bah, il faut suivre la loi, et l'auteur sacerdotal, il a fusionné tout ça dans un grand ensemble, hein, et ça donne la loi de Moïse, le Pentateuque. Est-ce que ça va ? Hein ? Donc, ça, c'est un schéma. Alors, vous allez dire, pourquoi nous a-t-il raconté ça ? Je vais dire, ce schéma a été profondément remis en cause. C'était une belle théorie, mais il y a beaucoup, ça ne rendait pas compte de tout. Il y a des choses, on se demande ce que c'est que le yaviste. On se demande si vraiment il y a une unité, même chez l'auteur éloïste. Hein, voilà. Alors, aujourd'hui, il y a eu énormément de discussions. On ne peut plus sortir cette théorie telle qu'elle est. Pourtant, je vous en ai parlé parce qu'elle a marqué l'histoire de l'exégèse. Elle a quand même donné une sorte de cohérence et nous a fait prendre conscience que le texte avait une histoire, qu'il y avait un enracinement et que tous les textes n'étaient pas forcément sur le même plan. Alors, aujourd'hui, les exégètes disent on ne peut pas la prendre telle qu'elle, mais nous en conservons des intuitions, nous en conservons les éléments essentiels, notamment, hein, certaines sources dont on peut dire qu'elles ont une certaine existence, à la source sacerdotale. Alors, même si la source yaviste, on ne sait plus trop ce qu'elle est, hein, on garde quand même par facilité la distinction entre les deux sources yavistes sacerdotales en ce qui concerne le début de la Genèse. Hein, au début de la Genèse, j'aurai recours de temps en temps à cette distinction entre yaviste et sacerdotal. Voilà. La source sacerdotale, comme je vous l'ai dit, qui correspond à une grande refonte du livre du Pentateuque, hein, l'auteur sacerdotal, il arrive longtemps après les autres, il dit je vais prendre tous les documents et je vais essayer de mettre du lien entre eux. Hein, donc c'est vraiment un éditeur, c'est quelqu'un qui a fait un énorme travail. Voilà. Et puis l'auteur yaviste, hein, qui était beaucoup plus ancien, mais des traditions qui ont été maintenues, qui ont été gardées telles quelles, comme si finalement les auteurs bibliques disaient « D'accord, aujourd'hui on ne dirait plus les choses de la même manière, mais ce qu'ont dit nos anciens, ça reste valable. » Et on va le voir pour les deux premiers chapitres de la Genèse. Deux récits de la création bien différents, et pourtant, il n'y a jamais eu l'idée de dire « On en élimine un au profit de l'autre ». Ça, c'est très, très intéressant. Et c'est un phénomène qu'on aura d'ailleurs beaucoup dans la Bible, de vouloir garder des traditions, même si elles peuvent sembler contradictoires. La lecture synchronique. Voilà. Ça va ? Hein, c'est, enfin, voilà, il y aura peut-être, je ne sais pas si on aura beaucoup de temps de questions à la fin, on va voir. La lecture synchronique, alors c'est quoi lecture synchronique ? Ben, là, j'ai évoqué rapidement l'histoire de la rédaction du texte sur une durée assez longue. Et là, j'aurais pu mettre un 5e siècle, hein, ça aurait été plus complet. Si c'est utile pour notre compréhension, voilà, pour le sacerdotal, on peut dire que c'est au 5e siècle, avant Jésus-Christ. Il n'empêche que ce qui est plus important pour nous, je rappelle aussi que la commission biblique pontificale a rappelé qu'il était essentiel de faire cette lecture critique historique, hein, ce qu'on appelle la critique biblique, hein, ça reste très important, hein, l'histoire du texte. Il n'empêche que ce qui pour nous est normatif, ce qui nous intéresse, ce sur quoi nous travaillons, c'est d'abord le texte final, le texte tel qu'il existe aujourd'hui. Ces textes ont été conservés, ils ont été mis dans un grand ensemble, hein, qu'on appelle le canon, hein, ce qu'on appelle un travail de canonisation, hein, des textes dans lesquels nous reconnaissons l'expression de la foi, l'expression de ce que Dieu veut nous révéler, veut nous dire. Hein? Canon, en grec, ça veut dire la règle. Quelle est la règle de la foi? Elle nous est donnée dans ces livres qui vont constituer le canon. Alors, ce n'est pas du tout un processus arbitraire, comme on nous l'a dit quelquefois. Pour l'Évangile, par exemple, alors ce n'est pas la problématique de cette année, on a dit l'Église, pour des raisons un peu obscures, a éjecté des évangiles apocryphes qui pourtant étaient très intéressants, et puis elle a gardé les quatre évangiles parce que ça l'intéressait. En réalité, on voit bien que dans la vie des communautés, les quatre évangiles qui étaient rédigés au 1er siècle, les apocryphes sont beaucoup plus tardifs. Donc les événements étaient beaucoup plus simples que la présentation qu'on en fait aujourd'hui. Hein. Pareil pour l'Ancien Testament, processus de canonisation, ça a été beaucoup la pratique de la prière, hein, de l'étude hein, dans le judaïsme. Hein. Mais il n'empêche qu'il y a eu ce choix, à un moment on a dit, ben voilà, l'Ancien Testament, la Bible juive, ben les juifs ont dit, voilà ce texte dans lequel nous reconnaissons notre foi, et particulièrement le Pentateuque, qui était le fondement même de la foi d'Israël. Hein. Pratiquement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous ne pouvons pas lire un texte biblique de façon isolée. Quand je lis un texte biblique, je prends en compte ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Alors vous me direz, dans la Genèse, je prends en compte ce qu'il y a après. Voilà, pas trop le choix, la Genèse est un point de départ, mais n'empêche que la suite va permettre de préciser ce que dit certaines choses de la Genèse. La Bible, par certains côtés, s'explique par elle-même. Hein? On peut donner une inflexion à un texte, et cette inflexion est juste et bonne si on voit que c'est ce que dit un autre texte. Mais certains vont lire les textes dans un certain sens, mais un sens qui n'a plus rien de biblique. Voilà. Très pratiquement, les deux premiers récits de la création, Genèse 1 et 2, que j'ai évoqués tout à l'heure, qui sont très différents dans leur style. Nous verrons ça les trois séances suivantes, on les étudiera là pour le coup, on lira vraiment le texte. Vous verrez vraiment de styles d'époque différents, et même avec des messages qui semblent différents. On voit qu'il y a une unité qui est profonde, mais la lecture synchronique fait que on lit le premier récit en n'oubliant pas le deuxième, et on lit le deuxième en n'oubliant pas le premier. Et ultimement, la parole de foi qu'on va pouvoir dire va s'appuyer sur les deux. Et on garde à la fois le souci de l'unité et en même temps les différences. Hein. On peut parler d'une lecture symphonique, comme dans une symphonie. Hein. Vous n'avez pas la même note jouée par le même instrument pendant deux heures. Vous avez des instruments différents, vous avez des notes différentes. Et c'est cette symphonie, c'est une image hein, qui existe chez les pères de l'Église pour parler de la symphonie de la foi. On peut parler aussi de la symphonie dans les textes des Écritures qui, mis ensemble, nous donnent cette unité, cette beauté, cette profondeur. Je m'arrête quelques instants sur la question des genres littéraires. Hein. La forme du texte n'est pas quelque chose de superficiel, hein, c'est quelque chose de fondamental. Hein. On doit ne pas simplement chercher une idée ou une histoire que le texte rapporterait en disant ben, « une fois que j'ai lu le texte, je retiens l'histoire qu'il y a derrière ». Non, le texte lui-même doit être pris en compte. Ce qu'on appelle les genres littéraires. Un genre littéraire, c'est la forme dans laquelle le texte a été composé. Il y a des chroniques, il y a des récits épiques, il y a des sagas, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a des contes, des généalogies, des codes de loi, des poèmes, des proverbes. Ces formes littéraires différentes renvoient à des contextes de rédaction différents, à des intentions différentes de la part de l'auteur. On n'ira pas de la même manière un conte et une chronique. Ça a été le problème de certains chrétiens qui, sans s'en rendre compte, étaient un peu fondamentalistes, pardonnez-moi, c'est peut-être un peu excessif de dire fondamentaliste, mais on était un peu bêtement littéraliste hein, en disant, ben voilà l'histoire de Jonas, il y a vraiment l'histoire de Jonas, et ceux qui ne tiennent pas l'historicité de l'histoire de Jonas, ce sont des gens qui n'ont pas la foi. Jonas, c'est un conte, c'est absolument, on le prend comme tel. Il y a d'autres récits dans lesquels il y a une forme qui peut rappeler celle des contes, mais qui auront un statut un peu différent, sur des récits historiques, mais sous une forme épique, donc on va faire la part des choses. Hein? On ne peut pas tout mettre d'un côté ou tout de l'autre. Voilà. Justement, je vais m'arrêter sur cette question de l'historicité. Mais il faut vraiment prendre en compte cette question des genres littéraires. Faute d'avoir pris en compte la question des genres littéraires, on s'est pris le pied dans le tapis et on a dit des âneries. Hein, on a essayé de tenir certains propos qui n'avaient rien à voir avec la volonté même du texte. Hein. L'histoire de Jonas n'a absolument pas l'intention. Une ville comme Ninive, qui a pulvérisé les Israélites de Samarie, un peu comme quelqu'un qui écrase un moustique sur un mur, Samarie n'avait aucune... Le royaume d'Israël n'avait aucune existence devant Ninive. Quand on nous raconte dans ce conte que Jonas part et que la ville tout entière se convertit, se frappe la poitrine en disant nous reconnaissons le Dieu saint d'Israël, le propos de l'auteur, c'est pas de nous faire croire des choses qui n'ont pas existé. Hein. C'est nous faire réagir en disant si la ville de Ninive est capable de se convertir, pourquoi moi je me convertirais pas? Mais on sait bien que, de toute façon, au moment où le récit a été écrit, Ninive n'existait plus. Alors, voilà. Donc, lisons un texte en disant quel est le genre littéraire. Encore une fois, le magistère de l'Église nous demande d'y faire très attention. Alors, la fameuse question de l'historicité. On s'est posé beaucoup la question de la valeur historique des 11 premiers chapitres de la Genèse. Une question qui a été relancée quand on a découvert des tablettes, vous savez, des tablettes un peu de cette taille-là, en argile, avec des récits qui étaient les mêmes que ceux qu'on avait dans la Bible. Hein? Au XIXe siècle, quand on a trouvé la ville de Nippur, la ville de Marie, la ville d'Ougarit, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés dans ces endroits, c'est assez extraordinaire, on a retrouvé des bibliothèques entières, des dizaines de milliers de tablettes écrites en cunéiforme, vous savez, cette petite écriture qui ressemble à de la paille broyée, hein, et on a réussi à déchiffrer, et on retrouve exactement le récit du déluge, dont des tablettes qui remontent probablement au XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Or, dans la Bible, les textes sont beaucoup plus tardifs. Donc on s'est dit, vous voyez, la Bible, ce sont des mythes qui ne sont rien d'autre qu'une variante, la variante palestinienne, comme on disait au XIXe siècle, la Palestine n'existait pas, mais la variante palestinienne des grandes mythologies d'Orient. Donc la Bible ne serait qu'un mythe. Alors il y a bien sûr la question du déluge, hein, dont on a le récit dans l'épopée de Gilgamesh, hein, c'est à la fin de l'histoire de Gilgamesh. Gilgamesh, celui qui recherche l'immortalité, voilà, donc il y a ce récit qu'on retrouve presque tel quel dans la Bible. Et puis on le retrouve aussi dans d'autres passages, hein, sur je sais pas quoi, le Dieu qui façonne l'homme en prenant de la terre, voilà, toutes sortes de choses. On se dit finalement la Bible ce n'est rien d'autre qu'un récit mythique. La question qu'il y a en amont est très importante, parce que la question est la suivante: est-ce que la Bible nous donne un message? C'est un message, un beau message, un message de fraternité, un message d'espérance, avec des textes qui soient mythiques ou pas, ça nous est égal. Ou bien, est-ce que la Bible nous renvoie à une histoire qui est tout aussi importante, peut-être même davantage, que le message? Est-ce que la Bible n'est pas liée à une histoire concrète? Allez. Ça aura de l'importance, parce que quand Jésus va venir... Qu'est-ce qui est important avec Jésus? C'est la personne de Jésus ou c'est son message? Vous voyez bien que la personne de Jésus, il s'insère dans une histoire. Donc la question de l'histoire est importante. Hein? La Bible, c'est pas uniquement, c'est un peu ce que je disais au début, c'est pas uniquement un ensemble de belles paroles avec des grands principes. Quand il y en a qui disaient, moi je suis d'accord avec les valeurs de la Bible, tant mieux, mais ça ne m'intéresse pas. La Bible n'est pas là pour nous donner des valeurs. Elle est là pour nous renvoyer, nous faire rentrer dans une histoire. Voilà. Alors, on s'est beaucoup posé ces questions. Nous avons du mal, en fait, à faire la part des choses, à comprendre. Soit on est dans le mythe, soit on est dans une histoire. Mais on voit bien que l'histoire passe à travers des récits mythiques. Alors, on dit, ben dans ce cas-là, c'est soit l'un, soit l'autre. Le problème qu'il y a, me semble-t-il... c'est que nous posons la question dans une mentalité qui est celle d'aujourd'hui, qui est très marquée par le positivisme. Le positivisme, c'est-à-dire cette espèce de pensée un peu rationaliste, hein, je ne sais pas si elle est très rationnelle, mais en tout cas elle est rationaliste, elle cherche dans des faits objectifs, mesurables, la preuve du discours que l'on tient. C'est-à-dire, je ne crois que ce que je suis capable de vérifier avec des instruments de mesure, qui vont être ceux de l'histoire, qui vont être ceux de la science. Alors on dit des choses très intéressantes de cette manière-là. On peut analyser des faits. On va voir des faits extérieurs. Mais est-ce que ce que Dieu réalise, est-ce que l'histoire que Dieu réalise n'est pas quelque chose de plus profond ? Que les faits objectifs ne suffisent pas à exprimer. Alors évidemment, au XIXe siècle, on avait cet esprit, ce rationalisme un peu matérialiste, un peu formel. Et bien on a fini par dire la Genèse, ce n'est rien d'autre que de la pure création, que de l'invention. C'est sûr que, pour reprendre l'objection des rationalistes, l'esprit positiviste au XIXe siècle et encore aujourd'hui, la Genèse, il n'y avait personne pour prendre des photos. Il n'y avait personne même pour faire un compte-rendu, puisque l'écriture n'existait pas. Il n'y avait personne pour dire « ça s'est passé comme ça ». La Genèse n'est pas une chronique de l'histoire des origines. Donc, une bonne fois pour toutes, quand nous disons « est-ce que la Genèse est historique ?» ou « est-ce qu'elle est historique ?» ne cherchons pas à savoir comment ça s'est passé. Voyez, à travers des faits objectifs que l'on peut raconter en disant il y avait tant de centimètres d'eau, machin, il y avait je ne sais pas quoi, on a vu les bestioles qui essayaient de nager puis qui n'y arrivaient pas. Voilà. Nous n'avons pas accès à ces événements. Ce n'est même pas ce que la Bible cherche à nous raconter. À ceci s'ajoute un argument théologique, qui est que pour connaître l'origine de l'humanité, il faudrait que nous ne soyons pas marqués par le péché. Le péché, j'allais dire, rétrécit notre regard. On ne peut pas savoir ce qu'est l'humanité sans péché, on ne connaît que l'humanité avec le péché. Voilà. Si nous avons bien compris ça, si vous êtes d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous pourrez me le dire, mais si vous êtes d'accord pour reconnaître que nous n'avons pas un accès sur le mode rationnel qui est le nôtre d'aujourd'hui, aux événements de l'origine, s'ils nous échappent, ils ne peuvent que nous échapper, il n'empêche que la Genèse n'est pas le produit de la créativité poétique des auteurs bibliques. Elle nous renvoie à une histoire qui est réelle, qui d'ailleurs nous donne quelques traces, dont nous avons pouvoir avoir quelques traces, mais surtout dont la Bible progressivement va préciser le contour. Abraham n'est pas sorti de rien, et avant Abraham, il y a eu cette histoire qui progressivement s'est dessinée, dont nous parle le livre de la Genèse. Donc c'est à partir d'événements qui ont été suffisamment forts, suffisamment marquants, c'est à partir de là que on a pu garder cette mémoire et qu'on a pu la mettre par écrit. Alors, on le dit notamment pour l'histoire du déluge. Qu'il y ait eu un événement de ce type-là qui a marqué la conscience et la mémoire de l'humanité, on peut tout à fait le penser. En tout cas, on ne peut pas l'exclure. Et en tout cas, pour la Bible, cet événement va marquer l'histoire concrète de notre monde et de notre humanité. Il y a donc bien un caractère historique, même si ce n'est pas selon les critères qui sont les nôtres. Ce caractère historique de la Bible part de l'idée qu'il y a des événements qui ont marqué notre histoire et qui ont été exprimés à travers des récits dont certains reprennent à des mythes, comme l'histoire de l'Arche de Noé. Il ne faut pas plaquer sur les textes anciens nos critères modernes d'études historiques, qui d'ailleurs par eux-mêmes ne sont pas toujours très satisfaisants. Parce que s'imaginer qu'on a accès à un fait brut et que l'histoire, ce n'est rien d'autre que des faits bruts, ça, c'est une vision qui est très moderne. En réalité, l'histoire, ce ne sont pas que des faits bruts. Ce sont des choses qui se passent dans la tête des gens, qui se passent dans la continuité, quand on met les événements en rapport les uns avec les autres, etc. Donc, notre propre manière de faire de l'histoire aujourd'hui pourrait se laisser interroger. Voilà. Dans l'ancienne, dans l'Antiquité, l'histoire, on savait que l'histoire était nécessairement interprétée. Un événement était tout de suite repris et relu à travers des gens littéraires. Et c'est ce que demande le magistère de l'Église. Je vous cite deux textes de la Commission biblique pontificale et puis du pape Pie XII, qui disent Il y a un caractère historique, mais nous devons prendre en compte la forme littéraire qui nous donne accès à ce noyau qu'on ne peut pas exclure, même si l'accès que nous en avons reste extrêmement limité. Voilà. Et tout le travail de l'exégèse, c'est d'arriver à déterminer ce que sont ces genres littéraires et quel est le substrat historique dont ils sont porteurs. Je conclus. En commençant le livre de la Genèse, eh bien, il faut accepter de se laisser conduire sans se contenter de chercher des réponses aux questions que nous nous posons. Par exemple, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça, ou est-ce que Caïn et Abel ont vraiment existé? On verra que le texte élargit véritablement notre regard. C'est en lisant attentivement le texte qu'on pénétrera le sens spirituel, comme l'enseignaient les pères de l'Église. Je cite Origène, « Il faut, quand on lit les saintes lettres, le faire avec beaucoup d'attention et ne pas parcourir au petit bonheur les propos de l'Écriture, qu'on prenne garde à chaque mot. » C'est ainsi qu'on peut s'élever vers la splendeur du mystère. Voilà. Alors la prochaine fois, justement, nous lirons le texte en nous arrêtant sur chaque mot. Donc, enfin, on aura accès à ce pourquoi nous sommes venus, qui est la lecture du livre de la Genèse. Il est 5, on est censé y aller. Est-ce qu'il y a une question?
Est-ce qu'il y a des lectures à faire pour la prochaine fois?
Oui, le chapitre 1 de la Genèse. Il faut lire le texte. Il faut lire le texte. Je vous ai mis une bibliographie. Alors la bibliographie, vous avez à la fois des livres d'exégèse comme le livre de Chêne, alors qui est assez ancien, on a écrit des choses depuis, ça existe. Et vous avez par exemple le livre de Feuillet, fait une reprise, alors c'est très synthétique, mais assez intéressante, qui donne un aperçu sur le contenu des textes que nous étudions. Le livre de Feuillet. Bien sûr, il faut lire les Pères de l'Église. Lourd, le livre de Jean Lourd, c'est les cahiers évangiles, qui sont en général remarquablement bien faits, tout à fait accessibles, qui permettent d'apporter des précisions là où les choses pouvaient sembler trop floues. Voilà, il y a le regard de quelqu'un au fond de la salle qui m'indique qu'il faut que j'arrête, c'est ça? C'est mieux. Voilà. Mais c'est à écart, les complis. Ah d'accord, parce que si... D'accord, nettoyage des verres et des assiettes. Voilà, il n'y a pas de questions pour la prochaine fois. Très bien.
On comprend les schismes.
Oui, pardon.
Est-ce qu'il reste des
polis? Non, je peux donner celui que j'ai ici, je crois que j'ai rien écrit dessus. Qui n'a pas... Qui veut un poli? Qui n'en a pas?
Ben oui, c'est possible. Voilà, faut que je vois pour la prochaine fois parce que.
Vous voulez un autre feuille, si c'est
possible. Il a donné la dernière.
Ah, vous voulez, mais sinon, c'est Héloïse, c'est plutôt. Il y a des soucis.
Mais l'autre feuille.
D'accord, il faut que je fasse. J'en ferai d'autres.
J'ai aperçu.
Ça, c'est la bibliographie.
Il y a des gens qui ont deux.